on va revenir sur un texte de l'Ancien Testament. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Josué. Josué, chapitre 5, et nous lirons à partir du verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Amen. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Jéricho doit tomber. Ouais ? Jéricho doit tomber. Non, ça ne vous emballe pas. Peut-être que ce qui ne vous emballe pas, c'est que derrière, il faudra se battre. Et là, on dit, oh, j'ai pas trop envie quand même. Jéricho doit tomber. Parce que si Jéricho ne tombe pas, ben, ça ne fonctionne plus derrière, si Jéricho ne tombe pas. Parce que Jéricho, c'est la porte d'entrée de la terre promise. On est bien d'accord. Jéricho, c'est la porte d'entrée de la terre promise. Alors, aux yeux des hommes, la bataille de Jéricho, encore aujourd'hui, hein, ça demeure une énigme. Personne n'est capable d'expliquer ce qui s'est passé ce jour-là à Jéricho. Personne. Les archéologues ont fouillé. Ils ont bien retrouvé les traces, ils ont bien retrouvé les pierres, ils ont bien retrouvé l'enceinte fortifiée. Ils ont compris que tout ça, enfin une bonne partie, était tombée par brèches. Il y a comme des brèches qui se sont faites dans la muraille et on a pu s'engouffrer. Et puis le feu a été mis à toute la ville. On a découvert tout cela. Mais il reste des mystères. Il reste des mystères. On ne comprend pas comment cette bataille a pu avoir lieu, surtout dans les termes bibliques. Alors évidemment, tous ceux qui ne croient pas à ces textes bibliques vont essayer de trouver des explications militaires, avec le temps, une invasion qui s'est faite, ça a pris du temps, il y a eu un siège, ça a duré, etc. Il y a eu un combat acharné. Mais en fait, vous n'avez aucune preuve archéologique qui vont aller à l'encontre de ce simple miracle qu'on a tourné 7 fois autour des murs de Jéricho, de la ville de Jéricho, et que le 7e jour, la muraille est tombée. Personne ne peut à l'heure actuelle démentir cette explication. Alors, ça reste une énigme quand même aujourd'hui. Mais vous allez voir avec moi qu'avant que les murs ne tombent, il y a eu beaucoup de préparatifs. Ça ne s'est pas fait comme ça, hein. Il y a eu beaucoup de préparatifs. En fait, c'est même une préparation très poussée jusque dans les détails pour que les murs tombent. En fait, je pense qu'on l'a entendu par 2 fois ce matin, par 2 fois au travers des dons spirituels. Il est évident qu'il faut laisser faire Jésus. Il faut le laisser faire. Si vous ne le laissez pas faire dans votre vie, vous allez avoir des murs infranchissables devant vous. Vous allez avoir des murailles qui vont se dresser devant vous et vous n'y arriverez pas. Vous lancerez des pierres, vous lancerez des flèches, à coups de catapultes, tout ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Il faut laisser faire Jésus. D'ailleurs, tous les commentateurs sont d'accord pour dire que la personne le chef de l'armée de l'Éternel. La personne que Josué rencontre ce jour-là, ce n'est personne d'autre que Jésus. C'est Jésus qui vient. Jésus qui vient, qui se présente à Josué. L'aspect a tellement été assez saisissant que Josué ne comprend pas qui est cette personne. Est-ce que tu es des nôtres ou est-ce que tu es notre ennemi ? Ami ou ennemi ? Le chef de l'armée de l'Éternel ne répond même pas à cette question. L'air de dire, je suis ni l'un ni l'autre. Moi, je ne suis pas comme toi, je ne suis pas un homme comme toi. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Vous retrouvez cette image dans l'Apocalypse, quand Jésus, sur un cheval blanc, part en vainqueur pour vaincre. Vous retrouvez cette image également dans d'autres lieux, dans d'autres textes de l'Écriture, et c'est tellement vrai que quand Josué prend conscience que quelqu'un est venu et l'a précédé pour la bataille qui est là, il va demander s'il y a des recommandations. Qu'est-ce que mon Seigneur me dit ? Quelles sont les recommandations ? Et jamais un ange ne se serait permis cela, jamais. Quel que soit l'ange, Gabriel, Michel ou un autre ange, aucun de ces anges n'aurait accepté l'adoration d'un homme. Jamais. D'ailleurs, quand un jour un homme se prosternera devant un ange, l'ange lui dira « Garde-toi de le faire. Adore Dieu. Adore Dieu. » Et finalement, quand Josué pose la question « Mais qu'est-ce que tu me dis ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel va lui dire « Ôte tes souliers de tes pieds, le lieu sur lequel tu te tiens, c'est une terre sainte. » Oui, tu peux m'adorer parce que je ne suis pas un ange, je ne suis pas n'importe qui. Et derrière cette révélation, derrière ce Jésus-là, il y a un encouragement tellement important pour nous. Parce que Jésus n'est-il pas devenu votre Seigneur ? Jésus n'est-il pas devenu celui qui a combattu pour vous ? Alors s'il vient avec vous dans la bataille, vous êtes tranquille. Ça devrait bien se passer, n'est-ce pas ? S'il vient avec vous dans le combat, ça devrait bien se terminer. Vous ne croyez pas ? Oh, ouais. Je pense que ça se terminera bien, certainement, certainement. Il est évident que Jéricho, vous avez vu des images, ce ne sont que des représentations, hein, mais on sait que, d'après les estimations, le mur de Jéricho faisait à peu près 10 mètres de haut. 10 mètres, c'est pas mal, hein, c'est 3 étages, hein, à peu près. 10 mètres de haut, des murs épais de à peu près 2 mètres, c'était peut-être du remblai, mais quand même, c'est épais. Et puis, vous aviez une espèce de tour de ronde, comme des petits ponts, comme un vide au milieu. Et il y avait une deuxième fortification. Donc, 2 x 10, les uns après les autres. Donc, une fois que vous en avez fait tomber un, il y a l'autre derrière. Bref, c'était fortifié. Et vous comprenez mieux ce qu'il est dit au chapitre 6 et au verset 1er. Jéricho était fermé et barricadé. Personne n'entrait et personne ne sortait. Une fois qu'on a fermé les portes, c'est terminé. Donc, ça sous-entend que, évidemment, la route, ce sera vraiment difficile. Sauf que, c'est étonnant, mais Dieu a choisi ce point d'entrée. Si vous regardez une carte d'Israël, vous verrez que tout au nord de la mer Morte, vous avez le Jourdain qui serpente. Et en fait, on pouvait rentrer dans le pays d'Israël par différents endroits. Bas, plus haut, moyen, enfin bref. Mais bizarrement, Dieu leur demande de passer exactement à l'endroit où il y a Jéricho. Pourquoi ils ne sont pas passés 1 kilomètre plus haut ? Non ? Ou alors en bas de la mer Morte et puis remonter comme ça dans le pays. C'est bizarre d'avoir choisi ce point-là. C'est comme si Dieu leur disait « Vous voulez rentrer dans la terre promise ? Parfait. Mais avant de rentrer dans la terre promise, vous êtes obligés de faire tomber Jéricho. » Si Jéricho ne tombe pas, vous n'aurez pas de victoire. Quand même, pourquoi, Seigneur, tu choisis les situations les plus inextricables pour nous apprendre des choses ? Parce que moi, j'apprends vite. Si tu me donnes des choses simples, j'apprendrai aussi. Non ? Vous êtes comme moi, non ? Qui préfère les choses compliquées ? Ah, pas vous. Il y en a qui aiment les choses compliquées. Mais en fait, c'est parce qu'ils sont bizarres, c'est parce qu'ils sont compliqués. Mais naturellement, on préfère les choses simples. Et Dieu nous dit, écoute, la vie chrétienne, elle est très simple. On va commencer par le plus compliqué. On va commencer par le plus compliqué. Il faut que Jéricho tombe. Mais de l'aveu même de plusieurs en Israël, de ce peuple d'Israël, on ne passera pas Jéricho. Vous vous souvenez certainement qu'on avait exploré le pays 40 ans plus tôt. 40 ans. On avait exploré le pays. Et en explorant le pays, on s'était rendu compte qu'il y avait des villes fortifiées. Peut-être pas que Jéricho, mais sans doute avions-nous vu Jéricho. Donc il y avait des villes fortifiées et on s'était dit, mais nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles, ce sont des géants, on n'y arrivera jamais. 40 ans de désert, on a été punis à cause de cette incrédulité. Et maintenant qu'on y revient, il faut commencer par là où le bât blesse. Il ne faut pas éviter le problème. Il ne faut pas se dire, oh, j'ai eu un problème il y a un an, il y a deux ans, il y a des choses dans ma vie que je n'ai pas affrontées, mais c'est derrière moi maintenant, je vais rentrer par une petite porte dans les voies de Dieu, dans le chemin divin, je vais y entrer par la fenêtre et on oubliera mes problèmes. Non, Dieu vous ramènera toujours au problème, toujours. Parce que si Jéricho ne tombe pas, vous allez vous empêtrer dans le problème. Vous n'allez pas en sortir. En fait, c'est la route vers la bénédiction, vers la croissance spirituelle, il fallait passer par Jéricho. Au-delà de Jéricho, il était dit que c'était un pays où coulait le lait et le miel. Vaste pays, beau pays certainement. C'est la diapo d'après qui nous explique cela. Donc un beau pays, un pays extraordinaire. Le fait est que c'est la destination choisie par Dieu. Je reste persuadé, vous comme moi, bien évidemment, on en a souvent parlé, que la destination choisie par Dieu, c'est une vie bénie. Ça peut se résumer comme ça ? Ça vous va ? Une vie bénie. Et pour que notre vie soit bénie, il suffit tout simplement d'être confiant en Dieu, de se confier en Dieu. Et Josué est confiant, car Dieu lui a fait des promesses. Si vous lisez au début du livre de Josué, avant que l'on attaque les premières batailles, il est dit ceci, donc Josué chapitre 1er au verset 1er, verset 2, « Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » C'est pas extraordinaire ça ? « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez un territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et puis il dira, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, fortifie-toi et prends courage. J'ai envie de dire que puisque c'est la route choisie par Dieu, ils n'ont pas le choix. Il faut passer par là, obligé de passer par Jéricho. Je vous ai dit que la bataille de Jéricho avait été soumise à énormément de préparatifs parce que Josué va comprendre assez rapidement que le peuple n'est pas prêt à entrer dans le pays promis comme cela. Il faut régler des choses. Il faut faire les derniers réglages. Si vous partez en vacances, et quand vous partez en vacances, en général, vous essayez de faire le point sur la voiture. Si vous partez en voiture, vérifiez les points essentiels, même si on n'est pas mécano, déjà qu'on a de l'essence. Hein. Et puis, je ne sais pas, l'huile, la pression des pneus, peut-être que vous l'amenez au garage pour la révision, sait-on jamais. Bref, il y a des préparatifs. C'est tout à fait logique. Eh bien là, il y a des préparatifs. Premièrement, il a fallu faire face au passé. Faire face au passé. Ça n'a pas été évident, mais il a fallu y revenir. Alors, on lit ensemble Josué, chapitre 5, versets 4 et 5. Bon, à partir du verset 2, comme ça, on comprendra le contexte. Josué, chapitre 5, on va rester dans le livre de Josué. Chapitre 5, verset 2. « En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre, et circoncis de nouveau les enfants d'Israël. » Une petite précision, circoncis ceux qui ne l'ont jamais été. Hein. On ne va pas les circoncire deux fois. Hein. Voilà, circoncis les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Arabot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes... de guerre, tous les hommes, étaient morts dans le désert, pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. C'est surprenant. C'est très surprenant. Parce qu'en fait, la circoncision, ce n'était pas juste une habitude, un rite, mais c'était quelque chose qui était excessivement important. Excessivement important. En fait, la circoncision, c'était pour ainsi dire une alliance, un signe. Le signe d'une alliance que Dieu avait traitée avec les hommes. Hier, nous étions à un mariage dans le Var, et au moment de la remise des alliances, quand les époux se donnent les alliances, je disais un mot là-dessus, et je faisais remarquer que finalement, on dit rarement la remise des anneaux. C'est un anneau, hein ? C'est juste un anneau, hein ? Bon, il vaut plus ou moins cher, mais c'est un anneau. On ne dit pas la remise des anneaux, non ? Non ? Oh ! Dites-moi que vous êtes vivant, s'il vous plaît. On dit la remise des alliances. Évidemment, on sait ce que ça signifie, c'est rentré dans le langage populaire. Mais une alliance, ça signifie un contrat. Ça signifie deux personnes où on va s'unir. On couche sur le papier des termes, c'est contractualisé, on scelle une alliance l'un vis-à-vis de l'autre. Et finalement, le mariage, c'est bien ça, deux êtres qui scellent une alliance, un homme et une femme qui scellent une alliance, et donc derrière cela, eh bien, on matérialise cela par l'alliance. Et je faisais remarquer, évidemment, que tous les jours de leur vie, quand ils regarderont cette alliance, ils se souviendront certainement du jour où ils se sont mariés. Certainement. Ils se souviendront de cette journée-là, ils se souviendront de ce qui s'est passé à ce moment-là, et puis de tout ce qui s'est passé depuis. L'alliance. La circoncision, c'était l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Comment peut-on oublier ça ? C'est fascinant quand même. Comment peut-on arriver à oublier cela ? C'est écrit dans le livre de la Genèse. Je vous le cite, Genèse chapitre 17. Retenez, si vous voulez, les versets. Genèse chapitre 17, verset 7. J'établis mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. C'est le même pays dont on parle maintenant, le pays de Canaan. Dieu a donné à Abraham et au peuple d'Israël le pays de Canaan. Il y a eu le détour par l'Égypte avec Joseph. Il s'est passé quelques centaines d'années dans ce domaine-là, qui les ont éloignés du pays de Canaan. Mais là, on revient à la maison. Sauf qu'on revient sans le contrat. On revient sans l'alliance. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose qui est important à ce moment-là, et Israël doit faire face à son passé. Il doit faire face à son passé. On a l'impression que 40 ans de désert ont eu raison de leur foi. 40 ans de désert et ils ne savent plus en qui ils croient, ne savent plus ce qu'il faut croire, ne savent plus comment il faut croire. C'est terrible quand même. De vous à moi, il est évident que les épreuves et les difficultés en grand nombre peuvent avoir raison, abîmer notre foi, n'est-ce pas ? Quand on passe par les difficultés, quand on passe par les épreuves, quand on passe par des complications, que c'est difficile ! Il nous est arrivé sans doute quelquefois de dire « Mais que fait Dieu ? Mais où est-il ? Pourquoi il m'a oublié ?» David le dira dans pas mal de ses psaumes. « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne comprends plus. Je glisse. Je perds la foi. Je suis en train de tout abandonner. » Qui n'est pas passé par des moments comme cela ? On devrait en avoir le moins possible. Et si tant est qu'on en est, parce que malheureusement, vous aurez des tribulations dans le monde, disait Jésus, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc ça, c'est la réalité. Notre foi devrait grandir au lieu de diminuer. Au sein des épreuves. L'apôtre Paul avait compris cela. Il en avait fait également une vérité. Il dira, quand je suis faible, C'est alors que je suis fort. C'est pas beau, ça? Eh oh! Je m'amuse, hein? Ouais, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais par quelle magie est-ce possible? Parce que quand je prends des coups, et quand je prends des coups et des coups et des coups, j'ai tendance à être moins fort. Et Paul dit, quand je prends des coups, je suis plus fort. Tout cela, parce que dans le fond, il disait et il dira, quand je suis faible, Jésus me fortifie. Parce qu'il est évident que humainement, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une dimension surnaturelle et spirituelle. N'est-ce pas ça le sens de l'alliance? N'est-ce pas ça le sens de cette alliance que Dieu a établie avec les hommes? Alors, comment était-il possible d'oublier cela? Au fur et à mesure du temps, on a oublié de circoncire les nouveau-nés. On a oublié. Et quand vous oubliez une fois, deux fois, ben vous oublierez 10 fois. Et vous oublierez 100 fois, certainement. Et puis après, vous oublierez même qu'un jour, ça a existé. Ça, c'est quand même dommage. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, Dieu va dire à Josué, écoute, on est dans... Ça y est, vous avez pris pied dans le pays de la promesse, pas de problème. Mais maintenant, il faut réaffirmer en qui vous croyez et il faut réaffirmer à qui vous appartenez. Et le seul moyen de le faire, c'est la circoncision. Waouh ! Paraît-il que c'est plus facile de circoncire un nouveau-né qu'un adulte, hein ? Ça fait beaucoup plus mal. Ouais. Et pour ça, certainement, que la chose se faisait, évidemment, lorsqu'ils étaient enfants. Et puis, d'une façon médicale, on a découvert qu'il y avait énormément de vertus à faire cela, le 8e jour, sur un nouveau-né, etc. Bref, tout au moins, ce qu'il nous faut retenir, c'est que le peuple a besoin de retrouver une relation de confiance avec Dieu. Ça a été battu en brèche, hein. Parce que pourquoi on est mort dans le désert? Par incrédulité. Et pourquoi ceux qui ont perdu leurs parents dans le désert devaient croire en ce Dieu qui avait enlevé leurs parents? Donc il faut reconstruire une relation, il faut rétablir une relation réelle. Mais cette relation avec Dieu, elle passait par un attachement et un respect, et j'ai envie de dire de la révérence vis-à-vis de Dieu, la volonté de glorifier Dieu. Si vous voulez entrer dans la terre promise et profiter du lait et du miel, Dieu va le faire, mais il connaît votre cœur. Et si vous ne le faites pas dans un souci, dans un désir de le glorifier, lui, simplement d'en tirer un profit personnel, ça ne fonctionnera pas. À un moment donné, c'est juste pour le glorifier, lui. D'ailleurs, l'apôtre Paul avait bien compris le sens de la circoncision, lui, juif qu'il était, mais il dira ceci, et c'est important de le retenir, dans la lettre aux Romains, par exemple, j'ai noté quelques versets, Romains, chapitre 8, verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Une explication par rapport à la circoncision, Colossiens, chapitre 2 et verset 11 dit ceci, « C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » J'en reviens à Romains. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » À un moment donné, c'est le corps tout entier, l'être tout entier, qui se livre à Dieu pour le servir. C'était déjà d'ailleurs une volonté très claire pour Dieu. On trouve cela dans le Deutéronome, au chapitre 10 et au verset 16. « Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. » C'est le cœur qui doit être circoncis. Pas simplement la chair, pas simplement l'aspect physique. Et là, on a arrêté de les circoncire physiquement, mais ça cachait un problème spirituel, vous le comprenez. Ça cachait un problème qui était tout en dessous. Dans le livre de Jérémie, pareil, la même pensée qui revient. Jérémie chapitre 4, verset 4. « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. » Faites-le pour Dieu. Et faites-le pour le glorifier. Dans une lettre, Jacques dira ceci, « Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » En fait, on a souvent pensé que ne pas faire le mal, c'était bien. Et je vous confirme que c'est bien. Ne pas faire le mal, c'est bien. Mais ne pas faire le bien, c'est mal. Ne pas faire le mal, ça ne suffit pas. Il faut faire le bien. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Vous comprendrez aisément que s'il n'y a pas une remise en question personnelle de savoir comment je suis agréable à Dieu, à un moment donné, bien sûr, je ne ferai plus le mal et tant mieux. Mais dans quelle mesure ferai-je le bien et dans quelle mesure vais-je vraiment le glorifier? Et c'est là où Dieu attendait le peuple d'Israël. Alors, il faut vous dire qu'il venait de traverser le Jourdain quand il s'est passé cela. C'est-à-dire que vous avez le fleuve du Jourdain, vous avez une plaine et la ville de Jéricho. Donc on a traversé le Jourdain d'une façon miraculeuse. Vous relirez le texte, c'est assez fascinant. On a traversé le Jourdain et pour traverser le Jourdain, ils n'ont rien eu à faire. C'est-à-dire que quelques kilomètres plus haut, il y a eu un éboulement au moment où Dieu l'a choisi, entre parenthèses, hein, au moment où Dieu l'a choisi, à la confluence de deux affluents, et le Jourdain a été bouché. Et à un moment donné, quand les Israélites vont mettre le pied dans le fleuve du Jourdain, il nous est dit que l'eau va s'arrêter net. À cette époque-là, le fleuve déborde sur ses rives. Je vous avais dit que d'après certaines études, on pense qu'il devait faire entre 600 mètres et 1 km de large. Ça va ? Aujourd'hui, si vous allez voir le Jourdain et que vous allez à l'endroit où Jésus a été baptisé, vous pourrez vous tremper dans l'eau. D'ailleurs, on va le faire dans le voyage. Vous pourrez vous tremper dans l'eau et vous faites quoi ? Même pas 10 mètres et vous êtes en Jordanie. C'est juste là. Hein. D'ailleurs, de l'autre côté, ils font le même circuit. Hein. Ils viennent là. Donc, le fleuve du Jourdain, à cet endroit-là, c'est pas grand-chose. Et on n'est pas très loin de Jéricho, entre parenthèses. Sauf que là, c'est énorme, parce que c'est une période de crue. Donc, vous comprenez bien que de l'autre côté, du côté du pays de Canaan et de tous ces peuples qui voient arriver un peuple comme ça, on ne s'attendait absolument pas à les voir arriver là. Hein. C'est le débarquement de Normandie. Hein. On ne s'attendait pas à les voir arriver là. Ce n'était pas le moment, ce n'était pas maintenant, c'était impossible. Sauf que Dieu aime les choses impossibles pour nous faire vivre des choses impossibles. Et donc, il les a fait traverser. Mais finalement, ça a été facile. C'est Dieu qui a tout fait. Sauf que maintenant qu'ils sont devant Jéricho, là, ils se disent, « Waouh, comment on fait maintenant ?» En fait, avec Dieu, il y aura toujours des choses faciles. Et je vous avoue que c'est agréable de vivre des miracles de ce genre, non ? Moi, je signe pour en vivre tous les jours juste un. Bon, deux, ce serait mieux. Trois, ce serait cadeau. Mais déjà un, ce serait bien, hein, un tous les jours. Mais c'est facile de vivre des miracles comme cela. Sauf que, évidemment, derrière ce miracle-là, il y avait quelque chose qui était plus important. D'ailleurs, quand ils ont traversé le fleuve du Jourdain, la leçon spirituelle, il y a toujours une leçon spirituelle avec Dieu. La leçon spirituelle est celle-ci. Dieu dira au peuple, « Je roule l'opprobre qui est sur vous. » Ils vont traverser le Jourdain et arriver à un endroit qui s'appellera Gilgal. Action de rouler, c'est ce que signifie Gilgal. Et Dieu dit maintenant, allez, 40 ans de désert, la misère en Égypte, on oublie tout ça, on repart à zéro, c'est un pays tout neuf qui est devant vous. Mais l'air de dire, je veux que vous soyez tout neuf vous aussi maintenant. Il faut dépoussiérer tout ce qui vous a nui, tout ce qui vous a entravé jusqu'à maintenant. Et dans le fond, c'est maintenant que la concision prend tout son sens. Parce qu'ils sont engagés maintenant, non pas dans une expérience collective, on a traversé tous ensemble le Jourdain, on n'a rien fait. Sauf que maintenant, par la circoncision, c'est chacun qui devra s'engager personnellement. Imaginez celui qui dira « Non, 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 s'il vous plaît. Non, non, je n'ai pas envie, moi. Hein. Je n'ai pas besoin. Non, non, mais moi, je crois, je n'ai pas besoin de ça. Ça, c'était pour avant. » Je vous le dis, j'en suis sûr, il n'entre pas. Après Jéricho, c'est fini, il est mort. Ce n'est pas possible. Il fallait, c'était un préalable, il fallait passer par là. C'est toujours avec un engagement personnel, vous l'avez bien compris, qu'on fait des grands progrès et qu'on avance avec Dieu. La deuxième chose, c'est qu'il faudra précisément avancer. Et là, au chapitre 5 de Josué, versets 10 et 12, il est dit, « Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque. » Le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho, ils mangèrent du blé du pays, le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne, c'est ça, le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Frères et sœurs, on vient de lire un des versets les plus marquants de l'histoire d'Israël. La manne, c'est ça, le jour même où ils ont mangé des productions du pays. Vous vous rendez compte ce que représentait la manne pour ces gens-là ? 40 ans, pratiquement. 40 ans à être nourri directement par Dieu. 40 ans à ne pas pouvoir, à ne pas avoir à cultiver. 40 ans à se laisser porter. 40 ans à se laisser conduire, à se laisser protéger, nourrir, vêtir, soutenu par Dieu. 40 ans ! C'est un cycle de vie, 40 ans. Et là, tout d'un coup, Dieu dit, bon, maintenant, il faut avancer. Et avec Dieu, ça ne perd pas de temps. Le jour même où ils entrent dans la terre promise, qui leur était promise, qui regorgeait de lait et de miel, l'air de dire, c'est à vous maintenant de bosser, moi j'ai fait ma part dans le désert, c'est à vous maintenant. Le jour même où ils vont se retrouver dans la terre promise, la première chose qu'il faut refaire, c'est la Pâque. C'est la Pâque. C'était peut-être, certains diraient pas le jour, pas le moment, on a autre chose à voir, il y a d'autres préparatifs. Non, non, la Pâque, préalable. La Pâque, il faut célébrer la Pâque. Finalement, je me dis que le peuple d'Israël a dû forcément s'habituer au miraculeux. Parce que vous vous souvenez peut-être, le premier jour où ils sont sortis et qu'ils ont trouvé cette espèce de farine, enfin graine de coriandre, ça ressemblait à cela, avec un goût de miel, ils l'ont pétri, ils en ont fait une pâte, c'est devenu la manne. La manne, ça signifie, mais qu'est-ce que c'est ? Donc la première fois qu'ils sont sortis, après que Dieu avait dit à Moïse, demain il y aura à manger partout autour du camp, ça a dû leur faire drôle quand même. D'ailleurs, certains étaient un peu sceptiques, ils en ont pris beaucoup, plus qu'il n'en fallait. Et Dieu avait dit, tous les jours, elle sera là. Et certains ont pris une réserve. Le lendemain matin, quand ils ont plongé dans la réserve, c'était café de verre, c'était immangeable. Il a fallu tout jeter, mais parce qu'il y en avait de la nouvelle manne fraîche qui les attendait. Alors, j'imagine que les premiers jours, ils ont dû sortir avec excitation, tout le temps, non ? Oh ! Un jour, une petite expérience personnelle, on était mariés depuis plusieurs années, on a décidé de s'offrir un lave-vaisselle. Lave-vaisselle, on recevait pas mal de monde à la maison, et ça faisait des années, 5 ans, qu'on faisait la vaisselle à la main. Et puis on a acheté un lave-vaisselle. Je vous assure, pendant des mois, quand je me levais le matin et que j'ouvrais le lave-vaisselle, qu'est-ce que j'étais content ! J'avais pas eu à faire la vaisselle, quoi. On n'avait pas eu à faire la vaisselle. C'était tout fait. Mais pendant des mois, ça m'a duré. La joie, le bonheur. Imaginez, c'est incomparable. Imaginez le bonheur qu'ils ont dû avoir, quoi. Tous les jours, tu sors, il y a la manne. Tous les jours, tu as à manger. Tu n'as pas à te soucier de cela. Sauf que on s'habitue au lave-vaisselle. On s'y habitue. Et le jour où il tombe en panne, qu'est-ce que vous faites ? 2 heures après, vous en avez acheté un neuf. C'est sûr. Ouais. On s'habitue aux bonnes choses. Et je pense que 40 ans de manne, on s'est largement habitué à la manne. En fait, le miraculeux, c'était même plus miraculeux. Imaginez qu'ils sortent un jour et qu'il n'y en ait pas. Ils auraient dit, ben alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est quand même miraculeux, hein ? Ouais, mais c'est pas normal, hein ? Hier, il y en avait, normalement, il doit y en avoir. Eh oui, c'est pas normal. Je ne comprends pas, j'ai l'impression que ma vie devient compliquée. Mais que fait Dieu ? Oh, ça fait 2 heures que j'attends. J'ai prié, il n'y a pas de réponse, c'est pas normal. Peut-on s'habituer au miraculeux ? On a tort de s'y habituer. Remarquez, on est plutôt habitué au non-miraculeux en ce moment. S'habituer au miraculeux. Et là, Dieu leur dit, le miracle, terminé. Maintenant, vous, débrouillez. Vous saisissez ? Vous débrouillez, au moins pour cultiver, au moins pour... Bon. Vous imaginez dans quelle réalité il rentre à ce moment-là ? J'aimerais vous dire que on ne devrait jamais s'habituer au miraculeux, ça devrait toujours nous émerveiller, toujours. Si vous faites votre possible, Dieu fera toujours l'impossible. Vous entendez ? Si vous faites votre possible... Dieu fera toujours l'impossible. Si vous commencez à ne plus faire votre possible, ne vous étonnez pas que l'impossible s'éloigne. Ne vous étonnez pas que ce soit plus difficile. La Pâque, c'était quoi ? C'était le souvenir de l'Égypte, la Pâque. C'est quand on est sorti de l'Égypte qu'on a célébré pour la première fois la Pâque. Quand on est sorti de l'Égypte, on a célébré la Pâque et on a mangé des herbes amères. Et à chaque fois qu'on célébrera la Pâque, on mangera les herbes amères parce qu'on se souviendra que ça a été un temps ô combien douloureux. Et le désert, n'en parlons pas. Mais ce n'est pas parce qu'on vient d'entrer dans la terre promise qu'il faut oublier d'où l'on vient et oublier que ça a été compliqué et difficile. En fait, le souvenir de la Pâque, c'est le souvenir de la rédemption aussi. 1 Corinthiens chapitre 6 nous dit au verset 20 que chacun demeure dans l'état où il a été appelé. Ça c'est le chapitre 7, excusez-moi. Chapitre 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Frères et sœurs, à la Pâque, à la croix, nous avons été rachetés à un grand prix. Quelque part, se prendre en main n'a rien d'exceptionnel et faire des efforts pour ne penser qu'à soi, non, on a arrêté il y a longtemps. Mais faire des efforts et se prendre en main pour glorifier Dieu, pour faire tomber Jéricho, ça vaut le coup. Et je termine. Il faut que Jéricho tombe. Et pour que Jéricho tombe, eh bien, il a suffi de l'obéissance et il a suffi de la soumission. Ça a été tout simple. C'est l'attitude de Josué devant Jésus-Christ. Qui es-tu ? Es-tu des nôtres ou es-tu de nos ennemis ? Ni l'un ni l'autre. Moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel qui va faire tomber les murs de Jéricho. Toi, je te demande de faire une chose. Tu vas organiser un scénario totalement improbable. Vous le lirez tout en entier. Le premier jour, donc vous vous souvenez de l'image du début, vous avez sept sacrificateurs avec des trompettes qui sonnent de la trompette. Derrière, vous en avez d'autres qui portent l'arche de l'Alliance. Et derrière, vous avez les guerriers, les soldats. Et tout le monde fait le tour de la grande ville en silence, le matin. Un jour, et Josué dira, vous ne direz pas un mot, rien, sous-entendu. S'il y a des invectives, n'y répondez pas, rien. Soyez sourds à tout ce que vous allez entendre, c'est important cela. Et finalement, ils ont fait le tour, ils sont rentrés à la maison. Deuxième jour, on fait pareil. Troisième jour, on fait pareil. Franchement, scénario complètement improbable. Vous gagnerez rien avec cela. Vous n'allez pas défoncer les fondations de ces murailles, de cette ville imprenable, simplement en grattant un peu le sol parce que vous avez fait cette fois le tour. Il ne faut pas rêver. C'est juste un acte d'obéissance. Comprenez ? C'est comme si Dieu disait à Josué, vous ne ferez pas tomber Jéricho, c'est moi qui ferai tomber Jéricho. Sauf que je ne ferai pas tomber Jéricho si vous ne vous investissez pas. Si vous n'y allez pas, moi je ne ferai pas tomber Jéricho. C'est ça qu'il dit. Et bien aimé, il y a des murs infranchissables qui expliquent le blocage que nous avons expérimenté dans notre vie, dans notre marche avec Dieu, le peu de résultats, réussites, etc., parce qu'il y a des murs, Jéricho qui est là, et on n'a pas su comment le prendre, on n'a pas réussi à faire tomber les murs, on a reculé, on a contourné, on a essayé de faire avec, on est resté en deçà, et donc dans un tout petit périmètre, et alors que tout le pays promis était là devant nous, tout ça est spirituel, vous le comprenez. Alors, c'est l'attitude de Josué devant Dieu. Dieu lui donne des conseils, une stratégie, et il va exactement faire cela. Mais c'est également l'attitude du peuple devant Josué, parce que quand Josué, chapitre 6, on l'a lu, va décrire comment il faudra faire, tout le peuple va dire oui. 40 ans plus tôt, ils ont pratiquement tous dit non. Ils avaient peur d'aller là. Et là, devant la peur ultime, ils disent « Ok, on le fait ». N'oubliez pas, ils ont été circoncis et ils ont célébré la Pâque. Ils viennent de vivre des expériences spirituelles. C'est pour ça qu'ils sont d'accord. Si on ne vit pas des expériences spirituelles, l'obéissance et la soumission, ça ne marche pas. On n'est pas d'accord, parce que notre nature dit non. Mais quand on a vécu ces choses-là, ça devient faisable. Et puis, je dirais que c'est l'attitude que le tout croyant doit avoir face à la parole de Dieu. Je reviens à ce que j'ai lu tout à l'heure dans l'expérience de Josué. Je l'ai résumé là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Frères et sœurs, Jéricho est tombé. celle des Juifs, celle d'Israël, celle de l'Ancien Testament, Jéricho est tombée. Il a quand même fallu aller se battre, hein, c'est certainement. Mais le plus difficile était fait, l'impossible était fait, il restait le possible à faire. Il a fallu aller se battre et on a obéi, sauf une famille, hein, mais on n'en parle pas. Pour la grande majorité, ils ont obéi, ils ont fait exactement au pied de la lettre ce que Dieu leur a demandé et ça a été un succès total. Frères et sœurs, si vous voulez que la bénédiction de Dieu continue de vous accompagner, obéissez simplement. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé, le message est simple. Et puis, ne vivez pas selon la chair, vivez selon l'esprit. Faites ce qui est agréable à Dieu. Quoi que vous fassiez en toutes choses, glorifiez l'Éternel, glorifiez son nom. C'est simple, c'est tellement simple. Et franchement, si ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre cœur, de vos yeux, de votre pensée, mais tous les jours, vous en découvrirez un petit peu plus sur comment faire pour être agréable à Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? De quelle manière je vais réussir à le faire? Et vous verrez que derrière, cette obéissance et cette soumission, c'est la terre promise. Eh oui, c'est la terre promise. Je crois que nous sommes, quand nous sommes chrétiens, face à un pays où coule le lait et le miel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de montagne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vallée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Qui est faible? Qui est faible? C'est alors que je suis fort, c'est alors que Jésus me fortifie. Bien-aimé, il faut faire face au passé pour avancer et il faut juste écouter, entendre ce qu'il nous dit et juste mettre en pratique ce qu'il nous demande. C'est si simple. Il suffit de faire juste cela et vous savez quoi? On sera dans le juste. On sera dans le juste et ça fonctionnera. Amen.